C'est-à-dire la fin de l'année, la fin du jour, la fin des 2000 ans, la fin d'une culture, la fin d'une humanité. Mais que suivra une autre humanité qui repassera par les mêmes chemins. De la même manière que mon fils, comme moi, est passé par une enfance, par une puberté, par un âge adulte, par un troisième âge, par une vieillesse. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, ou qu'il s'est retrouvé à moi, que c'est la même chose. Nous sommes, les générations humaines sont exactement comme les années qui se suivent. Dans cette idée que j'appelais tout à l'heure, cette notion de mémoire, par la coïncidence des choses, par les vestiges des choses, il y a aussi une prodigieuse espérance. C'est que tout finit par recommencer. Et peut-être tout à l'heure, je vais arrêter un peu, tout à l'heure, quand les dames vont partiellement exploser, j'essaierai de vous montrer jusqu'où ça peut aller. Et que vraiment certains ont pu espérer par ce moyen vaincre vraiment la mort. Non pas comme le père revit dans l'enfant, mais comme soi-même, on pourrait revivre par-delà sa propre mort, si vous voulez. Hein? Alors, ça fait une heure à peu près que je parlais. Je crois que... Il faut une heure à peu près pour atteindre une saturation. Mais on s'arrête 10 minutes, enfin très peu de temps, tant que vous respirez un peu. Si vous avez des questions à me poser, d'ailleurs, vous pouvez en profiter. Et puis je vais repartir vers 10h. Hein. Puis je parlerai de nouveau une heure ou un peu plus.
Bon, j'ai parlé d'histoire de mémoire de raisonnement du passé, de regard sur son passé. Et mais il est évident que nous sommes
d'abord concernés par ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous rattacher au passé, à des causes, à des explications. Quelles sont, si l'on considère les sociétés, les sectes humains de religion, et même les mouvements politiques depuis la Révolution française, particulièrement depuis 2 siècles. Quelque chose nous frappe, c'est que le fil dont je vous parlais tout à l'heure, se présente davantage comme individuel, quand même que comme collectif. On a, chacun de nous, nous avons besoin de voir où nous allons, d'être nous-mêmes. Intégralement, d'essayer de retrouver nos origines, de retrouver nos ancêtres, de retrouver ceux qui nous ont fait, ceux qui nous ont fabriqués, ceux qui nous ont éduqués. Nous sommes un peu comme un arbre. Chacun de nous est un peu comme un arbre qui a eu ses racines, qui a son tronc, son jeune tronc, puis son tronc plus développé. Puis qu'il y a des branches, qu'il y a des feuilles, qu'il y a des fruits. Et nous cherchons à nous accomplir, à nous épanouir, à fructifier, à donner de l'ombre à l'oiseau, de donner de la nourriture à l'écureuil, à donner de l'oxygène à l'homme. Bon. Mais en même temps qu'il y a cet arbre, que nous sommes ces arbres, nous vivons dans une forêt, nous vivons à proximité d'autres forêts, qu'on peut appeler les sociétés, qu'on peut appeler les cités, qu'on peut appeler les pays, les nations, les états, les religions aussi, ou des groupes, les simples groupes. Et là, les lois semblent différentes. Nous avons... tout à l'heure, chacun devait vivre pour l'arbre. L'arbre se considérait comme le réceptacle du soleil, de la pluie, de l'eau, pour produire justement ses fruits, ses feuilles. Il y avait un jeu de transmission, de vase communicant entre la réalité, lui, et il avait le droit, en somme, d'être égoïste, disons, oui, pour croître, il avait le droit de tuer les herbes, de tuer les mousses, de tuer les parasites qui l'auraient empêché de croître. Puisque le but de sa croissance, c'était de donner des ombres, des nourritures, des fruits, il lui fallait être, et pour être, il avait peut-être le droit d'être orgueilleux, d'être fier, d'être combatif, d'être égoïste. Mais le point de vue de la forêt, si vous voulez, est tout à fait différent. La forêt considère que l'arbre est fait pour la forêt, les arbres sont là pour faire la forêt. Et quand l'arbre est pris dans la forêt, mon Dieu, il n'a pas une grande importance. Un arbre peut disparaître sans que la forêt soit détruite pour autant. Or, ça, cette image, cette autre image du fil et de la mosaïque, l'arbre et la forêt, est beaucoup plus proche de nous que ce que je vous disais tout à l'heure, qui restait un petit peu mythologique, un petit peu trop religieux, un petit peu trop ouvert aux races et aux âges précédents. Notre problème à nous, c'est vraiment l'arbre et la forêt. Depuis deux siècles, il y a clairement les sectes ou les mouvements qui cherchent l'accomplissement de l'homme, de l'individu, de la femme, de l'enfant, mais cet enfant-là, cette femme-là, cet homme-là, cet arbre-là. Et on les appelle généralement des sectes faustiennes, parce que c'est Goethe dans Faust qui a le mieux exprimé cette notion, que l'homme doit s'accomplir, même avec un pacte diabolique, même en signant son sang avec le diable, parce que sa mission à lui est de donner et de produire. Faust est un savant, c'est un créateur. Et il lui faut l'aide de toutes les puissances infernales pour mieux créer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour créer, on se drogue, on boit, on s'enivre, on se laisse affoler par les danses, on se laisse envoûter. Il y a des choses pires. Il y a des actes de sadisme, des actes de masochisme, des actes de déséquilibre sexuel, etc., dont le but est d'exalter l'individu, d'exalter son besoin du beau, son exigence du beau. Ce que je vous citais tout à l'heure, un Baudelaire ou un... entre autres, mais il y en a d'autres, ont reconnu que... Si vous voulez, pour une chose effrayante, c'est que les grands peintres de la Renaissance, quand ils avaient à exprimer la douleur ou la souffrance, ils pouvaient torturer ou du moins imposer à leur modèle de se tenir dans une position pénible qui leur était la souffrance, parce qu'il fallait qu'ils créent cette souffrance. Seulement, l'artiste était capable de ça aussi, puisque vous savez que Michel-Ange est devenu à la moitié bossu en peignant le plafond de la Sistine. L'artiste ne craignait pas de se sacrifier lui-même pour produire une œuvre plus belle. La beauté surpassait toutes les peurs de souffrance. Bon, donc il y a cette sorte de morale un peu diabolique. Disons le mot, ou mauvaise, au point de vue de la morale, mauvaise. Mais qui peuvent être nécessaires pour que l'arbre s'accomplisse mieux. Il faut que l'arbre tue des mousses, il faut qu'il tue des herbes, il faut qu'il tue des parasites, qu'il tue quelquefois des fruits d'ailleurs, pour justement en donner de plus beau. Et puis il y a les sectes. Ça, c'est ce qu'on appelle les sectes faustiennes, les sectes diaboliques, mais aussi occultes, les sectes les plus secrètes souvent, et puis les plus dangereuses, celles qui font peur. Il y a eu des sectes étrangleurs, comme les Tuques, ou comme des sectes de violence, des sectes martyrs aussi, qui sont allés jusqu'à s'échapper dans certaines sectes russes. plus horrible a pu être tentée dans de tels sectes. Et on le voit bien tous les jours, des sectes qui se cultivent, qui s'immolent dans le feu, etc. Ça va jusqu'au délire, bien sûr. Et puis il y a les autres sectes qu'on pourrait appeler des sectes fraternelles, des sectes de bien, dont le but est le bien, et qui sont des sectes collectives qui cherchent à soumettre les hommes, à les faire entrer de gré de force dans la société, dans les temps. Je dis que ce sont des sectes du bien, elles se prétendent des sectes du bien, elles ont tenu par ce langage-là, c'est « je fais le bien, les hommes sont frères, les hommes seront heureux s'ils vivent comme je le dis. Bon. » Il faut les apprendre, il faut les obliger à être des frères, à être des égaux. Je dis qu'elles font le bien, qu'elles ont la prétention de faire le bien, ça n'a pas toujours été vrai, c'est évident. C'est évident. Je cite l'exemple de Fouché, qui est vraiment, heureusement tous n'étaient pas comme ça, mais enfin ça montre jusqu'où pouvait aller cette sorte de délire révolutionnaire et républicain. Il y avait un homme qui s'appelait Chalier, qui était une sorte d'obsédé par l'idée de la République, de la fraternité, de l'égalité, justement. Et qui avait... il avait assisté à la prise de la Bastille, ou il prétendait avoir assisté. En tout cas, il avait acheté une pierre, parce qu'on vendait les pierres de la Bastille. Après la prise, on a vendu les pierres de la Bastille une à une, comme souvenir. Et lui, il avait acheté une pierre comme ça, et il est allé jusqu'à Lyon, et la famille, en portant sa pierre. Ça a duré 6 jours, son voyage. Et alors, quand il est arrivé à Lyon, les quelques révolutionnaires que comptaient lui, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, on l'a accueilli comme un saint, hein, pour cet acte héroïque d'avoir promené sa pierre avant 6 jours. Mais la ville de Lyon n'était pas du tout d'accord avec les révolutionnaires. Ça les agaçait, les privait de leur richesse, de leur commerce, de leur soirée, de leur métier à tisser, ou du moins les transformer, les en faire des fabriques où ils n'auraient plus leur place, enfin, tout ça les irritait, puis les nouvelles qui venaient de Paris étaient terribles, hein, c'était tout de même la guillotine sur les places publiques, c'était les rois, les princes, les poètes, les inventeurs, les savants qui passaient sous les uns après les autres, les Lavoisier, les Chénier, les banques. Enfin, c'était assez terrifiant. Et bon, ils ont fini par prendre le malheureux Chalier. Et puis, on lui a dit, puisque tu es de ceux qui trouvent que la guillotine ne fonctionne pas assez. D'ailleurs, il disait comme marin que la guillotine ne fonctionnait pas assez. Ben, puisqu'elle ne fonctionne pas assez, elle va fonctionner une fois de plus pour toi, au lieu pour deux. Enfin, c'était pas tolérable, bien sûr que. Le comité de salut public ne pouvait pas accepter ça, c'est évident, on comprend qu'il ne puisse pas accepter ça. Seulement, il envoie Fouché qui va venir mettre de l'ordre à Lyon. Bon, il commence par réédifier, faire une statue de Chalier, une statue, enfin un buste, et puis le placer dans la plus grande église de la ville, à la place du Ciboire, à la place du Seigneur. À la place de Jésus. Il met le buste de Chalier, et puis la croix, ben, il l'attache avec un âne, et puis, etc. Ça continue, il y a toute une fête. À l'éloge de la rationalité, du républicanisme, de la liberté, de la vérité. Et puis, comme le peuple protestait vaguement, qu'il y avait des bruits, eh bien, il a tué 2000 Lyonnais dans le mois qui a suivi. Il a fait fusiller, la guillotine ne suffisait pas, il a fait des fusillés. Alors, ça peut être ça aussi, les sectes de bien et de mal, pour faire attention. Les Guyana, c'était une secte de fraternité. Cette secte qui s'est suicidée, ou mis 1000 personnes, hommes et femmes et enfants, se sont tués ou ont été. Bon, il y en a d'autres, les deux sentiers lumineux en Amérique du Sud, c'est une secte de fraternité, c'est une secte d'égalité, c'est une secte qui veut en finir avec les riches, avec les puissants, qui prétend que tous les hommes soient égaux et que donc le bonheur soit pour tous. Mais en attendant, ils ont tué 30 000 personnes à peu près. Maintenant, les chefs, les meneurs sont arrêtés, on leur reproche 30 000 victimes.